RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah!
Yeah! Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. Et c'est un spécial fin de saison avec Sacha Alix, Fred Weitz et Félix Gabory. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Sacha Tinted Glasses Alix, parce que quand on est américain, il faut un surnom. Ouais. Et il est avec ses lunettes fumées, c'est un truc, il a un mec, il a moins de 30 ans, il a des lunettes de yeuve.
J'ai beaucoup plus de rien.
Tu sais que j'ai bien plus que 30 ans.
Non, t'as moins de 30 ans. T'as beaucoup plus ?
Ah ouais.
Beaucoup plus.
Tu fais moins.
Tu fais pas moins.
T'as l'élixir de jouvence. Donc, nous allons parler de cette fin de saison. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas parler que des playoffs, mais aussi du vote du MVP. Est-ce que vous trouvez ça logique ? Est-ce que c'est injuste pour Wemby ? Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu'il soit considéré comme le meilleur joueur de la Ligue ? Ça, ce sera dans un deuxième temps, mais pour commencer, quelle finale selon vous ? Faites vos jeux, messieurs. Voilà, on va faire un peu de pronostic puisqu'on est en tout début de finale, même si on a vu ce match extraordinaire pour le match 1 entre OKC et les Spurs. T'es régalé, Fred ?
On s'est régalé. C'est magnifique.
T'as mis ton réveil ?
Non, j'ai même pas eu besoin. Mon cerveau était programmé pour regarder le match.
C'est-à-dire que t'as regardé combien de temps de la fin du match ?
J'ai regardé beaucoup parce quart. Que finalement j'ai regardé le dernier quart et les deux prolongations. Donc j'ai regardé beaucoup de temps finalement.
Félix, Sacha, on s'est réveillé ou pas ?
All Possession, tu connais.
All Possession, non, c'est oui. Ce que j'ai fait aussi.
Bah oui, comme ça on est frais
là,
pour le podcast.
Faut faire gaffe à ça quand même.
Mais on arrive en retard quand même. T'es en train de me dire que t'es prêt pour le podcast,
mais
que t'arrives
en retard quand même à cause de ça.
Mais surtout, il y a les alertes voilà, qui nous pourrissent la vie quand même.
Ah non, mais là, du coup, il faut de la maîtrise. Il faut vraiment téléphone en ne pas déranger, couper toutes les notifications. Comme ça, on voit pas les messages de Fred le matin dans le groupe Basket Time. Et comme ça, on est parfait.
Voilà. Alors, quelle finale faites vos jeux ? Le vote du MVP est-il logique ? Et puis, dans la partie historique, vous allez me parler d'un arrière dominant qui n'avait pas un gros tir à 3 points. À l'image de Shea, même si certains estiment qu'à 38% il l'a, mais il ne l'utilise pas. Donc bon, on peut quand même considérer que ce n'est pas son point fort.
Son arme principal en tout cas.
Vous avez trouvé des bons clients ?
Ah oui,
oui, j'ai l'impression.
Il ne me sort pas un obscur, je sais
Josh
pas quoi,
Smith.
Toi. Hein. Ouais, Josh Smith. Hein. Un arrière déjà, on a dit. Hein. Ok, il va me sortir un vrai mec, sens encore.
Mais non. Mais c'est sûr, mais c'est évident. Moi, dès qu'on m'a dit que j'étais avec Sacha, j'ai eu peur.
On va parler de Mike Bibby ou d'un mec comme ça, je
vraiment
sens.
Cette menace.
Oui, t'es cette pour menace. Le basket. Ouais. Pour un mec de moins de 30 ans, t'es hyper menaçant, chaud.
Allez, c'est parti.
Welcome to the 2026 Western Conference Finals. Castle, lobbing. He's unbelievable, folks. He's unbelievable. And the San Antonio Spurs on an epic night from their superstar. 41 and 24 boards for Victor Wembanyama. The Spurs take game one.
Welcome to the Western Conference Finals.
Alors, quelle finale selon vous ? C'est un petit concours de pronostics, mais surtout, on va d'abord s'appuyer sur ce match 1 entre OKC et les Spurs. En double prolongation, victoire des Spurs qui ont quand même été devant presque tout le match. Il y a eu 2-3 moments de bascule, mais à chaque fois, ils ont réussi à remettre la main sur cette rencontre de manière assez impressionnante parce qu'on imaginait quand même que l'expérience d'OKC serait primordiale dans cette série. Manifestement, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de ça, Félix. Hein.
Aucun complexe.
On va commencer par là.
Non, d'ailleurs, Victor, il l'a dit juste après le match. On lui posait la question de savoir si il pensait être au niveau d'OKC. Il a répondu si on joue à notre niveau et si on ne fait pas d'erreur, on gagnera cette série. Donc c'est vraiment ce niveau de confiance là qu'ils ont les Spurs. Et tu l'as vu sur le match parce que, comme tu dis, moi j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vu devant tout le match avec parfois des 8-10 points d'avance. Et quand je vois OKC revenir à la fin, je me dis là les Spurs ils vont louper le coche, ils vont s'en vouloir. S'en mordre les doigts de laisser filer ce game one. Et au final, ils ont réussi de manière assez incroyable parce que c'est une équipe Casey qui a tellement d'expérience, championne en titre, qui est sur un 8-0 sur ces playoffs-là, dans une ambiance de dingue, hein, parce que voilà, la salle du Thunder, c'est quand même une salle de dingue, c'est Loud City. Et ils ont réussi, mais on a l'impression que c'est une équipe de vieux briscards, là, tu vois. Alors que t'as Dylan Harper, ça fait 6 mois qu'il est en NBA, Stephen Castle, c'est ses premiers playoffs, Wemby, on n'en parle même pas. Et ils ont réussi à avoir le mental et la froideur, le côté clinique pour continuer à dérouler leur basket, continuer à dominer OKC sur ce match-là et en tout cas à maîtriser OKC pour maîtriser ce retour d'OKC. Donc non, très très impressionnant et ça nous embête beaucoup Pierrot pour nos pronostics hein, justement ce match 1.
Pourquoi ?
Bah, parce que sur la question quelle finale, avant le match, moi je voyais évidemment OKC.
Est-ce pour, que ce pour l'expérience tout vraiment.
Ce match 1 change pas tout, mais par
ils sont
contre,
capables d'aller gagner à San Antonio.
Bien sûr, hein. Mais par contre, déjà l'avantage du parquet est repris et surtout sur ce match 1, on voit que les Spurs sont vraiment au niveau et c'est ce qu'ils nous ont montré toute la saison. À chaque fois qu'on se demande si on réussira à passer les steps, ils arrivent à le passer ce step-là. On l'a vu sur la régulière, on l'a vu sur le premier tour des playoffs, sur le deuxième tour des playoffs même contre Minnesota où on s'est dit tiens, ils sont rentrés dans la bouche, ça va être compliqué, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre. Là, pareil, on se dit ah en face c'est les champions en titre, c'est OK ici, c'est un rouleau compresseur, mais non, pas de problème, ils arrivent à se mettre au niveau. Donc ils nous embêtent beaucoup pour nos pronos ces Spurs parce qu'ils ils repoussent sans cesse les limites.
Alors garde-en, tu me donneras ton prono plus tard, Fred.
Non, j'ai été très impressionné. Évidemment que bon, on peut pas dire le contraire. C'est une évidence. Après, j'ai envie de retenir des facteurs quand même intéressants pour San Antonio, qui étaient gênants pour OKC. OKC, ils ont fait deux séries où c'était très simple pour eux, où finalement il n'y avait pas vraiment ce combat physique, cette intensité, cette dureté que San Antonio a dû affronter contre Minnesota. Alors oui, Minnesota, c'est pas forcément la meilleure équipe du monde, mais par contre, dans la dureté, dans l'intensité, ça te prépare quand même à des vrais affrontements. Donc, j'ai envie de minimiser, entre guillemets, un petit peu cette victoire. Alors, minimiser, c'est hyper difficile, hein, parce que faut quand même aller se les coltiner, il faut quand même aller se les battre. Mais dans l'absolu, tu viens de sortir de 2x4-0.
Ça te semble pas illogique.
Alors, je sais pas si illogique ou pas, mais en tous les cas, que OKC ait du mal à commencer le match, ça me paraît normal. Déjà.
La série, pas, tu veux dire.
Non, le match.
Parce que
directement, l'équipe d'en face a un peu plus de rythme, que eux, ils viennent de se balader, entre guillemets, même si c'est un peu réducteur, mais ils se baladaient, entre guillemets, sur les deux premiers tours. Donc j'ai envie de dire que le début de match soit à l'avantage des Spurs, je trouve ça assez normal. Après, je rejoins Félix, qui réussisse dans les moments difficiles à se transcender, à redonner un petit coup d'accélérateur, de se retrouver à faire cette dernière prolongation à 14-7, où ils sont vraiment monstrueux, ça m'impressionne plus.
Parce que le rythme, ils l'ont retrouvé, hein, justement. Le match, il a duré 58 minutes.
C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, oui, c'est logique qu'ils soient devant pendant la première période, le temps qu'OKC se remette en place. OKC se remet en place sur le début de deuxième mi-temps, et là, tu vois les Spurs, bah, au lieu de s'effondrer, être toujours très vaillants, sachant qu'ils ont quand même perdu 21 ballons, que Fox ne jouait pas. Je me dis qu'il y a quand même plein de choses hyper intéressantes, mais en même temps, si on m'avait dit avant quel match doivent gagner les Spurs et en tous les cas, en plus de chance à l'extérieur,
c'est le match 1. Sacha.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Fred. OKC était reposé et en fait en manque de rythme, c'est pour ça qu'il laisse passer un petit peu ce match 1. Ce qui fait peur, c'est que quand il s'ajuste, je pense que c'est la tonalité qu'on va avoir sur cette série-là. C'est et que ça. S'ils commencent les matchs de cette manière-là, OKC, ils vont être très dangereux. Ils ont été globalement assez maladroits, je trouve, à l'exception d'Alex Caruso. S'il n'était pas là, ils étaient totalement perdus sur le début de match. Donc si normalement ils abordent le match avec les forces qu'on connaît au OKC, je pense qu'ils ont toujours l'avantage sur les Spurs. Par contre, vraiment afficher ce niveau-là pour les Spurs pour une première grosse opposition, c'est dingue. Harper, ce qu'il fait sur un match rookie comme ça où tu sais que Fox n'est pas là, et Fox, s'il revient, va faire beaucoup de bien, je pense, aux Spurs avec son expérience et dans le clutch time. Elle est folle, cette équipe des Spurs. Je pense que on est tous très surpris, en plus, de cette maturité dans les moments chauds, comme Félix l'a dit, en play-off, tu peux mener tout le long, effondré sur le quatrième, et c'est l'équipe la plus solide qui passe, et c'est arrivé à beaucoup beaucoup d'équipes. Je me rappelle le hit de Butler quand c'est dans la bulle, il gagne les matchs vraiment sur les 5 dernières minutes à chaque fois, et c'est là où tu vois les très très grandes équipes, et que les Spurs soient en capacité de gérer ces moments-là, en fait ça en dit long sur leur caractère et la maturité très précoce qu'ils ont. Ils sont prêts à répondre à ces défis-là et ils sont venus gâcher la fête du MVP de Shea, et on sait que c'était personnel parce que Victor l'a dit, oui, je suis là pour gâcher la fête un peu, et ça devient personnel parce que c'est le MVP que je n'ai pas eu et j'aimerais en avoir, et franchement il l'a démontré sur le terrain parce que ce shoot à 10 mètres, il est juste fabuleux.
Après, là, moi ça je sais pas quoi en penser.
De
Ce shoot pour égaliser à 10 mètres.
Et en fait, il le rate, tout le monde va dire ah, c'est nul, quel mauvais choix. Il le met, c'est magnifique. Ouais. En fait c'est ce type de shoot-là.
Mais
avoir
shoot,
le culot, le
si,
point,
si,
mais,
le si mettre, tu le mets, c'est forcément bon shoot.
Je sais pas, voilà, parce que c'est forcément un bon shoot si tu n'as plus de chrono, mais ils ont quand même un peu le temps de poser quelque chose. Hein.
Il est un peu rapide.
Ok, c'est la NBA, c'est comme ça va.
Non, je suis d'accord avec toi, il est un peu rapide.
Donc il le met, ça lui donne raison, il n'y a pas de souci. Mais Quand il le prend, franchement, on est tous en train de se dire maintenant.
Ah oui. Mais c'est un coup sur la tête. C'est toujours ce.
C'est un coup sur la tête.
C'est, ouais, voilà, c'est risque-récompense. Bon, là, t'es récompensé et ça met un gros coup sur la tête d'Okaïsi parce que.
Là, t'as mis 500 ouais, dollars mais, sur le ouais, 0 à la roulette.
Ouais, ouais,
tu le rates, tu redonnes le ballon aux autres.
Ah, c'est terrible. C'est fini. Le match est fini.
Et là, aujourd'hui, on débat.
C'est ça aussi.
Et là, ce matin, on débat tous du très mauvais choix de OMB. Mais il est un peu ouvert.
Il est très loin et il soit ouvert quand même. C'est pas un shoot normal.
Mais ça met ton équipe dans une euphorie
dans un mood
où tu te dis
ah ouais c'est on bon va les déterminer
il est là oui, on va être avec lui
c'est une piège de terminer quand même
bien non, mais je suis 100% d'accord
en fait, il faut très loin même bien Caruso sûr. Qui est quand même un énorme défenseur lève même pas le bras il y allait prends le celui-là
il faut pas qu'il refasse ça en fait. En fait, c'est très bien de l'avoir fait, mais
s'il a envie de remettre des trois aussi,
bah, non, mais
ça peut pas être une manière de gagner. Grand, parce que... Moi, je trouve quand même. C'est dans ce genre d'action, et c'est toujours des actions
oui,
très
mais
discutables.
Mais
tu vois.
L'action restera iconique si elle est unique, en fait. Parce que s'il leur prend trois autres dans la série, il va pas les mettre. On est d'accord, quand même.
Il les mettra pas tous.
Ou alors, c'est Jésus.
Mais on retiendra que sur ce match-là, il l'a mis et ça a permis aux Spurs de s'arracher la prolongation. Et d'ailleurs, ça vous rappelle rien ce shoot exactement dans la même salle qu'un autre shoot assez iconique, qui était aussi un mauvais shoot. C'est Steph Curry le shoot qu'il met contre le Thunder justement.
Il y a pas de mauvais shoot avec Steph Curry. Pas.
Non mais
c'est. Réellement sur la capacité à être dans les moments chauds, prendre des shoots à trois points, il y a pas de mauvais
mais
shoot.
Mais ce que tu regardes, c'est vraiment l'effet miroir des deux actions, c'est le même shoot. Et à l'époque, Curry c'était aussi, on disait c'est un mauvais shoot, il restait un temps mort. D'ailleurs, tu entends le commentateur qui dit ils auraient dû prendre un temps mort. Curry qui dégaine à 8-9 mètres et ça fait.
Alors le point commun c'est que ça met des clims dans les deux cas, c'est qu'il y a une clim dans la salle qui s'installe, c'est fou.
Est-ce que le manque de réussite d'OKC est due à une mauvaise soirée ou à la défense des Spurs?
Bah ça dépend, le manque de réussite de qui? Si tu parles de Shea, c'est la défense. En fait, il a deux lames. Il a la première lame défensive sur lui, en homme à homme, qui le prend, qui le pousse, qui l'impacte, etc. Et quand il se rapproche, il y a Wemby derrière. Donc forcément, c'est extrêmement difficile. Mais pour les autres, quand Lou Dort est ouvert à 3 points,
les autres n'ont pas shooté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Shea et Caruso qui ont shooté, hein, c'est tout. Hein.
Alors principalement, mais par exemple, j'ai le souvenir de Lou Dort. Ça a shooté un petit peu à 3 points. Ça n'a pas marqué de fou, mais ça a marqué quand même dans l'absolu. Moi je ne suis pas choqué par leur pourcentage de réussite. Moi, ce qui me choque, c'est la première mi-temps de Shea.
Ouais.
Shea, il a vraiment mis du temps à s'adapter. Ils ont dû relâcher un petit peu les freins.
Il a 7 sur 23, ce qui est quand même vraiment pas ouf.
C'est pas ouf, mais surtout, je crois qu'il met 4 points dans la première mi-temps. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont vraiment bien cadenassé. J'ai beaucoup aimé Carter Bryant sur lui, même s'il n'a pas joué énormément quand il a été sur lui. Il a été excessivement bon. Après, t'as Cassel, Dylan Harper. Ça peut se relayer sur lui. J'ai même vu Keldon Johnson pas mauvais sur lui.
Ils ont tellement de matos envoyé, les Spurs.
Ils ont tous envoyé de la viande sur lui, et franchement, c'était très impressionnant.
Alors, petit tour de table. Donc, est-ce que ce match 1, cette victoire des Spurs, change la donne sur votre pronostic, Fred?
Non.
Non.
Non, non, pour moi. Oui, mais c'est complètement difficile de le dire alors qu'ils viennent de perdre. Hein. Mais moi, je pense qu'ils sont capables d'aller reprendre l'avantage du terrain à San Antonio. Donc, je pense que ça ira en 7 et que sur le match 7, piège jeté en l'air, mais peut-être OKC. Okay,
Félix.
Avant le match d'hier, je voyais un 4-2 pour OKC. Et là, j'ai envie de dire, allez, un 4-3 pour OKC. Parce que Game 7 à la maison, pour le Thunder, ça le prendrait. Mais tu vois, si de match en match, à chaque fois, les Spurs gagnent une victoire, ça va finir à 4-0 Spurs, quoi.
Sacha, tu nous as déjà à moitié répondu.
Ouais, non, moi, je vais dire OKC. J'attends le Game 3. Je trouve que souvent, dans les séries très disputées, c'est ce qui va donner la température de la suite, les ajustements du coach.
Impair, surtout.
Oui, les matchs impairs.
Voilà. Moi, après le Game 3, j'aurais vraiment un prono fiable.
Alors après,
après le Game 7, moi je suis sûr de savoir.
De l'autre côté, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être moins défensif, mais ça peut être très spectaculaire aussi entre New York et Cleveland en fin de compte. Hein.
Moins beau basket.
C'est pas le même basket, mais honnêtement, on a pris du plaisir avec New York dernièrement.
Oui.
Cavs, sur le dernier match, ça nous donnent du plaisir aussi. Peut-être qu'ils ont trouvé la formule.
Ça peut faire des matchs à 260 points par contre.
Ça peut faire des
matchs. T'as pris du plaisir avec le dernier match des Cavs, toi?
Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé enfin les big men. Mais en fait, vous aimez pas les grands aussi, c'est le problème.
Je suis à la table
des Dan Jardin là aussi. Évidemment, ils vont pas aimer les grands. Mais non, Jarrett Allen a été très bon. Mobley a été très bon aussi. Je suis très content que, comment il s'appelle, Sam Merrill sorte du banc et qu'il apporte. Je suis très content que Kenny Atkinson ait enfin changé son 5. Parce que Dean Wade, moi j'en avais marre de le voir dans le 5 majeur. Max Truch, je le préfère. Je pense qu'il y a des ajustements. Je pense que ça joue mieux. Et il y a pas si longtemps, j'aurais dit New York facilement. Je suis un peu moins sûr.
Ouais, pour quelle raison?
Ben parce que je crois qu'ils ont trouvé une formule pour être plus dur, parce que dans les matchs couperés, ils sont là. Parce que Jared Allen sur les matchs 7 est très bon, parce qu'il trouve des solutions à chaque fois. Ils s'en sortent contre les Raptors au match 7, ils s'en sortent contre les Pistons au match 7. Ça veut dire qu'ils ont dans la tête quelque chose, ils sortent de l'enfer, alors que New York, ça a été plus simple sur les
matchs précédents. Moi, je suis d'accord avec Fred, ils ont connu des difficultés sans nom, là où les Knicks ont déroulé à partir du Game 3, je crois, face aux Hawks, où vraiment ils commencent à tout emballer. J'arrive pas à vraiment me faire une idée sur cette finale à l'Est. Évidemment, c'est pas le même basket, c'est un peu moins collectif. Les Knicks, je trouve que c'est beaucoup d'adresse extérieure, beaucoup ce côté rugueux en défense. Cleveland, tu sais pas, c'est une équipe qui est totalement bipolaire. Elle peut faire un match excellent avec un Mitchell au top, Harden au top, etc. Dur dans la peinture et puis après complètement disparaître. Franchement, c'est super dur. Je suis pas hyper séduit par les deux équipes, même si ça s'envoie bien. J'ai l'impression que Cleveland peut faire une surprise à ces Knicks parce qu'ils ont des armes qui correspondent aux défauts des Knicks. Dans le sens où les Knicks, ils ont été très dominants sur les rebonds offensifs, etc. Je pense que les Cavs peuvent aller challenger là-dessus. Je pense que ça va être galère pour eux de défendre et Harden et Donovan Mitchell aussi. Je pense que ça va beaucoup attaquer sur Brunson, sur Towns, etc. Donc si Cleveland arrive à trouver la régularité et les ajustements, il y a quelque chose à faire. Maintenant, les Knicks, vraiment, ils ont une adresse qui est phénoménale. Anunoby, il va revenir plus frais qu'avant, et ça, il a été excellent, moi, je trouve, sur le début des playoffs.
Peut-être un des meilleurs Knicks, le meilleur Knicks même.
S'ils ont encore cette adresse à 3 points, honnêtement, ils sont injouables, les Knicks à l'Est. Ça, par contre, c'est que si ça continue à rentrer, c'est impossible de faire quelque chose. Ça rentre sur tout le monde, ça rentre quand c'est contesté, et en plus, même quand l'équipe adverse a des tirs grands ouverts, ça rentre pas. C'est-à-dire qu'ils sont quand même intimidants, cette équipe des Knicks, dans cette manière de jouer, mais je pense qu'ils sont renversables.
Non, et les Knicks, on n'a même pas parlé de la bascule absolument irréelle qu'ont eu les Knicks depuis le premier tour. Sept victoires de suite. Au milieu du premier tour contre Atlanta, c'était horrible sur les 3 premiers matchs. Il y a eu une bascule qui correspond à un changement de rôle de Karl Anthony Towns. Coach McBrown en a beaucoup parlé en conf de presse. Il a remis Towns dans un rôle un peu à la Jokic, Draymond Green, c'est toi qui distribue tout le jeu. Ça libère des espaces pour Brunson. Quand tu vois les stats de Towns, sur le deuxième tour des playoffs, il est à 15,7 points, 9,6 rebonds et 8 passes de moyenne. En carrière, Towns, il tourne à 3 passes de moyenne. Là, il est à 8 passes, ils sont complètement transformés. Et là où avant, les Knicks, c'était horrible à voir jouer. Là, maintenant, c'est où c'était que du 1 contre 1, où tu dépendais que du talent de Brunson ou de 4 dans la peinture. Là, c'est vraiment une belle équipe à voir jouer. Et c'est un rouleau compresseur. Ils sont sur 7 victoires de suite. Et Fred, l'écart moyen, c'est 26 points d'écart sur cette série.
C'est n'importe quoi.
Ils sont en train de rouler sur tout le monde.
Je suis d'accord, mais finalement, les deux équipes qui sont affrontées à Atlanta a fait illusion au début. Après, ils se sont fait massacrer. Et je suis désolé, les Sixers, c'était quand même plus dans la difficulté. T'avais Joel Embiid sur une patte.
Ouais.
Il faut quand même recontextualiser aussi.
Demande à Boston ce que ça fait d'affronter les Sixers. Pour le coup, les Knicks, ils ont sweepé une équipe qui avait sorti Boston, qui était le favori de l'Est. Donc,
j'ai peur du côté, les Sixers voulaient absolument sortir Boston. Et en fait, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont accompli leur play-off, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, franchement, je trouve que c'est basique, mais ce qu'ils ont trouvé comme recette, les Knicks, ça marche hyper bien.
Oui,
c'est beaucoup moins travaillé que ce qu'on voit à l'Ouest, mais c'est tout aussi efficace. Et en play-off, tu as besoin d'efficacité et ils l'ont.
Alors, est-ce que Cleveland est capable de limiter l'attaque de New York, parce qu'on a vu beaucoup de paniers faciles, notamment de Brunson, qui avait des espaces. Alors, je sais pas, moi, je peux pas vous expliquer, vous êtes mieux placé que moi, mais comment il se crée ces espaces-là. Mais c'est souvent facile pour lui. Il est très bon shooter, très adroit. Est-ce qu'il y a un moyen de limiter ça? Parce que t'as l'impression que quand il démarre, il est inarrêtable avec main gauche.
Il y a deux choses. On parlait de Karl-Anthony Towns. Je pense que du côté de Cleveland, on a des joueurs capables de lui mettre la pression pour qu'il passe le ballon moins facilement déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de reculer sur lui, on va pouvoir l'agresser un petit peu.
Est-ce que tu peux faire des prises à deux, par exemple, sur Brunson? Est-ce que c'est efficace?
Je pense qu'il y a aussi de la viande pour défendre sur lui du côté des Cavs. Je pense qu'il y a plus de viande.
On va pas envoyer Harden Brunson.
Je pense que non, mais Max Strus, par exemple, moi, je pense qu'il peut défendre sur lui. Je pense que c'est quelqu'un qui peut le faire. Je pense que Schroeder sur des séquences, il peut le faire aussi.
Schroeder qui est pas mal d'ailleurs.
Oui, qui apporte aussi. Il y a un banc, il y a de quoi faire. Mais je te dis, je pense que je suis d'accord avec mes collègues pour une fois. Karl Anthony Towns est au centre de l'attaque. Si tu l'empêches de faire les passes comme il le veut, s'il a moins d'espace, quand il est l'attaque sur un Joel Embiid notamment, alors il n'a pas fait que ça parce qu'il n'a pas tout le temps été là, il a de l'espace que Joel Embiid recule sur lui, il est moins mobile. Quand tu as des mecs mobiles sur lui qui vont le gêner, qui ont des grands bras, qui vont le contester, eh ben vas-y, va t'amuser à faire 8 passes de moyenne.
Comment Jarrett Allen, pas Jarrett Allen, mais Evan Mobley peut s'occuper de Karl Anthony Towns, peut-être, non
sur ce, sur physiquement, ça va être dur. Hein.
Moi, j'ai du mal avec Mobley. C'est un très fort joueur, mais je le trouve tellement soft. Ouais. Tellement soft.
C'est pas le boulot qu'il faut lui donner, celui-là.
Non, c'est clair, mais on aide, oui.
Oui, bien
si
sûr.
Si tu mets Jarrett Allen sur lui et derrière, l'aide, si ça pénètre.
Même si Towns joue un peu plus reculé. Tu peux lui envoyer Jarrett Allen sur la truc
Je pense qu'il est mieux. Il est mobile, c'est surtout qu'il va essayer de contester les shoots quand même, et puis que Karl Anthony Towns ne va pas pouvoir l'enfoncer aussi facilement qu'un mobile, par exemple. Mais par contre, si t'as mobile derrière, s'il pénètre et qu'il va te gêner, ça peut être intéressant en deuxième lame.
Donc, petit pronostic, Fred.
Waouh, c'est dur. C'est extrêmement difficile. J'ai craché sur les Cavs depuis le début, donc j'ai envie de dire victoire des Cavs.
Voilà. Très bien. Ça s'appelle l'humilité de Fred. Félix.
4-1 Knicks.
Ah oui, quand même.
C'est large. Ils sont sur une dynamique absolument folle. Et en face, t'as les Cavs qui je trouve absolument horribles. Ils sont horribles à regarder. Ils ont battu des équipes qui étaient juste moins fortes qu'eux.
Ils n'ont pas stoppé, eux. Ils se sont battus depuis le début. Alors ça que dépend. Les Knicks sont arrêtés un petit peu là.
Je trouve que ça dépend quand même beaucoup. Du match de Donovan Mitchell et Harden, c'est-à-dire que parfois quand même quand ils arrivent à laisser s'exprimer leur génie, c'est quand même
c'est sympa.
C'est quand même les joueurs cool quoi.
Oui, non mais du coup,
je suis désolé. Alors c'est vrai que parfois j'ai envie de les baffer parce qu'ils sont nappes. Ouais.
Non mais notamment sur James Harden,
des balles très importantes.
Il a été très bon Donovan Mitchell sur le match 7, très bon.
Et non mais leur vraie force c'est que en plus tu peux avoir si quand un des deux, Harden ou Mitchell, est dans un moins bon soir, l'autre peut prendre le relais. Et ça arrive très souvent qu'ils soient dans un mauvais soir, notamment Harden. Toi, tu parles de James Harden.
Il n'a pas fait que des mauvais matchs,
Mais quand ça arrive dans le clutch time, il a quand même tendance à vraiment disparaître.
T'as vraiment envie de lui tirer les oreilles ou la barbe. Ouais.
Et moi, tu vois, Pierrot, j'ai pas de maison, mais si j'en avais une, je la parierais pas sur James Harden en playoff, quoi.
Sacha,
je vais mettre Cleveland parce que j'ai quand même cette sensation que les Knicks sont un peu en sur-régime. Ils ont surproduit finalement sur les premiers tours et je pense que la réalité peut venir les frapper sur cette finale-là.
Vous connaissez le scénario, le scénario que personne n'imaginait, C'est les Spurs qui tapent au KC et New York qui tape les Spurs en finale. Vous savez que ça peut arriver, ça. Vous savez que ça peut arriver, ça. Parce qu'on l'a vu quand même, le match-up n'est pas très favorable aux Spurs. On l'a vu en NBA Cup. Il n'y a plus de photos quand même.
NBA Cup, c'est un match.
Mais c'est un match qui compte quand même.
Oui, mais sauf que
t'as le contraire.
Il y a l'avantage du terrain pour les Spurs dans ce cas-là.
Soit,
mais dans le coaching, je mets quand même une pièce sur les Spurs. Dans le sens où, dans les adaptations.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas.
Ils ont quand même plus de chance face aux Spurs que face au KC, non ? New York.
Mais moi, je trouve qu'on sous-estime vraiment New York. Je trouve que vraiment, ils font partie des vrais prétendants au titre. De toute façon, il en reste plus que 4. Même quand tu regardes les bookmakers, c'est un peu dans un mouchoir de poche les 3 premiers, et c'est les Cavs qui sont loin derrière dans les bookmakers. Franchement, les Knicks, même on a tout parlé un peu de tous leurs ajustements. Ils ont une profondeur d'équipe. Ils ont 8, 9, 10 joueurs. Je pense que c'est le meilleur noyau de 8, 9, 10 joueurs sur les 4 équipes qui restent.
Les Knicks ?
Ah oui.
Attends, quand même, rien que les Cavs ont quand même.
Quand tu regardes vraiment les rosters,
quand même.
Mais il n'y a pas de dépassement de fonction aux Knicks, ils savent tous quoi faire. C'est pour ça que je dis que c'est assez simple. Ça a vraiment cette vibe un peu Miami, tu vois, où il y avait Butler et les autres qui étaient autour. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là, un petit peu chez les Knicks, où vraiment, les mecs n'ont pas de dépassement de fonction. Ils font ce qu'ils font, ils le font super bien et ça rentre.
Il y en a un seul qui n'a pas donné la finale logique, c'est Sacha qui nous donne un OKC Cavs, si j'ai bien suivi.
Ouais.
Allez, on passe au MVP.